Bonsoir, Emmanuel Macron va passer la soirée et la nuit à Lausanne où il est arrivé cet après-midi pour défendre demain matin devant le CIO la candidature de Paris pour les JO. Alors lesquels ? 2024, 2028 ? Parce qu'il se dit que le comité international pourrait attribuer en même temps les deux Olympiades, en tout cas verdict le 13 septembre à Lima. Le chef de l'État ne sera pas le seul à défendre, à vanter les mérites de la capitale puisque de très nombreux sportifs également sont engagés derrière cette candidature. L'opinion publique, c'est un sujet extrêmement consensuel. Tout est-il joué ? Et à quel prix ? Tiens, on nous promet que ça sera les Jeux de la sobriété, les JO de Paris. Question ce soir, Paris est-elle enfin prête à accueillir les Jeux Olympiques ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, vous y croyez, la candidature de Paris pour organiser les Jeux Olympiques. On va en parler ce soir avec nos décodeurs de l'écho. Il y a Virgile Caillet, le délégué général de l'Union Sport et Cycle, le syndicat des entreprises du sport. Frédéric Bedin, président du directoire de Hopscotch Global PR Group, un groupe d'événementiel, un groupe de relations publiques, un groupe de digital également. Michel Durieux, auteur de Tourisme, la France numéro 1 mondial. Oui, la France qui va accueillir 89 millions de visiteurs cette année. C'est le ministre Jean-Yves Le Drian qui l'a annoncé cet après-midi. Et d'ailleurs, Michel Durieux, vous êtes aussi le directeur du tourisme auprès du ministre des Affaires étrangères. Christophe Ripaud, le directeur des partenariats de La Poste. La Poste, l'un des grands groupes qui sont engagés donc auprès de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques. Et puis, j'ai voulu aussi qu'on pense à Los Angeles, bien entendu. Christopher Mesnou nous accompagne. Il est partenaire du cabinet Phil Fisher, avocat au barreau de Paris et New York, californien lui-même. Ça sera intéressant d'avoir le regard de cet avocat américain, justement, sur la candidature des deux. Virgile Caillet, quand même, je le disais, verdict le 13 septembre. Demain, on saura s'il y a une double attribution.
Exactement.
2024 ou 2028. Pourquoi le CIO pourrait prendre cette décision, cette histoire de blinder la suite, parce que des villes se sont un petit peu trop retirées ces derniers temps, faute d'argent.
C'est un processus qui mature, qui est dans l'esprit des membres du CIO et notamment de son président Thomas Barr depuis déjà quelques mois. Il y a effectivement une pénurie de villes candidates. Ouais. Les villes ont de plus en plus de mal à convaincre à la fois leurs économies et à la fois leur opinion publique de l'intérêt de se présenter et de poser une candidature.
On a vu par exemple comme en Boston, Rome, Budapest, se sont retirés,
etc.
Voilà.
Et c'était le même cas pour les Jeux Olympiques d'hiver en 2022, puisqu'au final, on a eu une alternative entre Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver et Almaty, qui était la capitale
du Kazakhstan.
Donc en fait, il n'y avait pas vraiment de choix. Donc c'est Pékin qui va organiser les Jeux d'hiver en 2022. Et là, on a cette alternative 2024-2028, deux villes exceptionnelles, des villes olympiques, des gros pays qui pèsent très lourd dans le monde olympique. Donc pour le CIO, il ne faut pas qu'il y ait un vainqueur. Il faut qu'il y en ait deux. Et j'oserais même dire trois.
Ah.
Paris, Los Angeles et le CIO.
Et le CIO eux-mêmes. Attendez, ça veut dire quoi? Que de toute façon, Paris et Los Angeles vont organiser à la fin des années 20, alors comment, dans quel sens, les Jeux Olympiques, c'est ça? Paris est garanti d'organiser des Jeux Olympiques.
Alors, il faut respecter le calendrier olympique. Et ça, les membres du CIO, ils sont très sensibles. C'est pour ça qu'il y a tout un process, un enchaînement, une succession de réunions. Le processus aboutit demain à une décision du comité olympique qui va effectivement voter pour cette double attribution, ce qui serait une première depuis quasiment 100 ans. Donc, si cette
double... Pour les Jeux Olympiques.
Pour les Jeux Olympiques.
On a vu, par exemple, je me souviens, pour le Mondial, à un moment, ils avaient attribué quasiment le même jour.
On parlait des Jeux Olympiques.
2018-2022, la Russie et puis le Qatar.
Tout à fait. Donc là, si ce vote va dans le bon sens, les éléments d'information que l'on a, il semblerait qu'effectivement, on aille plutôt sur une double attribution, le vote aura lieu à Lima pour décider qui de Paris ou Los Angeles accueillera les Jeux de 2024 et qui de Paris ou Los Angeles accueillera les Jeux de 2028.
C'est grave si on a l'un plus que l'autre? C'est grave si on a 2028 plutôt que 2024 ou le contraire?
Alors, je reviens à ce que je vous ai dit juste avant, à savoir que le CIO souhaite qu'il y ait deux vainqueurs.
Ouais.
Il faut donc que les deux villes soient satisfaites.
Ouais, ouais.
Du lot qu'elles vont obtenir, donc qu'il n'y ait pas de lot de consolation. Donc Paris a revendiqué depuis le début 2024, le dossier est fait pour 2024, pour tout un tas de raisons dont on parlera peut-être ce soir.
Bien sûr, ouais.
Ce dossier, il est construit pour réussir en 2024.
2024.
Il faut donc faire en sorte
on attend pas.
Que Los Angeles soit satisfait et pleinement heureuse
d'avoir
2028. D'accueillir 2028.
Bon, bah, très très bien. Oui, alors en attendant, bah, va falloir plancher, hein, je disais, Emmanuel Macron, des sportifs. Hein. Demain, comment ça va se passer? Donc, eh bien, pendant 45 minutes, il y aura 10 discours, il y aura une dizaine d'intervenants. Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Tony Estanguet, qui est membre français du CIO, Guy Drut, hein, qui porte aussi le projet JO 2024, le directeur général, Monsieur Taubois. 30 minutes de questions-réponses. Tiens, Frédéric Bedin, justement, vous qui, à la tête de Hopscotch, régulièrement, vous organisez des événements, régulièrement, vous répondez à des appels d'offres, hein, pour les événements que vous organisez, pour les relations presse, relations publiques. Quand on planche comme ça, il y a ces présentations pour des appels d'offres, quand on présente des Jeux Olympiques, ça ressemble pas à n'importe quel appel d'offres que les entreprises connaissent. Hein.
Alors, c'est une présentation, mais c'est surtout la présentation, c'est l'aboutissement de tout un travail depuis des années. Et le fait, on peut penser que le fait que Emmanuel Macron se déplace ce soir et demain laisse penser qu'il a de bonnes informations et de bonnes vibrations sur le fait que ça devrait bien se passer, parce que il y a eu des discussions. Ce qui est très intéressant, et je pense que tous les gens qui nous écoutent nous regardent, peuvent le regarder. Sur Twitter, il y a eu le Comité international olympique a publié une vidéo qui détaille le projet américain et le projet français sous l'angle du dossier technique, avec donc il y a une vidéo qui présente les deux en parallèle et puis après chacun indépendamment, et ils expliquent. Alors il y a le patron de la commission technique du CIO qui explique que les deux projets sont absolument formidables, en plus c'est un américain, donc il le fait avec beaucoup de positivité comme ils savent le faire, mais on voit bien que les deux dossiers sont hyper détaillés, sont hyper bien montés, mais ils sont différents. C'est-à-dire que le dossier français, il est très tourisme.
Ouais.
Le dossier américain, il est très innovation.
Ouais.
Et donc les mots sont avec tout ce qu'il y a de positif derrière les deux mots. Et on sent que vu du CIO, les deux sont bien et que effectivement ils ont intérêt à les prendre les deux. Mais dans quel ordre?
Que les meilleurs gagnent alors.
Voilà.
Finalement.
Dans quel ordre? Voilà. C'est pour l'instant il y a encore un petit ou peut-être un faux suspense.
Ouais, alors, simplement, oui, vous avez parlé d'Emmanuel Macron, oui, qui fait le déplacement. Hein. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, justement, sitôt arrivé à l'Élysée, il avait reçu le CIO. On se souvient tous comment il avait mouillé sa chemise, donc au mois de juin, notamment vers le pont Alexandre III, en jouant au tennis avec l'un, en challengeant quelque part quelqu'un d'autre à la boxe, je sais pas comment on dit quand on fait un match de boxe. Il va aller donc à Lausanne. C'est important qu'il y ait le président de la République ou quelque part, j'ai envie de dire, attention, ne pas mettre trop de politique. Moi, je me souviens la candidature de Paris 2012 qui avait échoué. Parce que les Anglais en face, ils mettaient qui? Sébastien Coe, hein, qui mettait en avant.
Alors ça a été un des grands enseignements de la précédente candidature, qui a été un échec assez douloureux. D'ailleurs, on n'a pas recandidaté pour 2016. Clairement, là, la décision, ça a été de mettre les athlètes au cœur de cette candidature. Voilà. C'est la raison pour laquelle on retrouve Bernard Lapasset, qui est quand même un ancien président de Fédération Internationale. C'est celui qui a fait re-rentrer le rugby au cœur des Jeux Olympiques. Et puis évidemment, Tony Estanguet.
Okay.
Tony Estanguet qui s'est vraiment révélé.
Triple champion olympique.
Un personnage important au sein du mouvement olympique. Donc ça, c'est un
point très
positif. Tous les athlètes sont vraiment derrière cette candidature. Et j'ajouterais par rapport à Emmanuel Macron...
Accessoirement, on rappelle, la ministre des Sports s'appelle Laura Flessel.
Laura Flessel,
ça
exactement.
Peut aider aussi. Hein,
donc
voilà.
Tous les indicateurs convergent. Et Emmanuel Macron s'est même déplacé à Clairefontaine, puisqu'ils se sont mis au vert pour préparer cette présentation. Et il a vraiment mouillé la chemise, effectivement.
Christopher Mesnou, vous qui êtes à cheval sur la France, les États-Unis et puis bien d'autres pays également... Emmanuel Macron, c'est un atout. La réputation de Macron sur la scène internationale, c'est une force. Il va jouer un petit peu de son image de jeune dirigeant dynamique qu'on lui connaît maintenant depuis deux mois.
C'est indéniablement une force, d'autant plus que son homologue américain risque de ne pas s'investir de la même manière.
Il sera pas à Lausanne.
Il sera pas à Lausanne. C'est exactement le genre de manifestation à laquelle on peut imaginer que le président Trump s'oppose, parce qu'il y aura l'arrivée de millions de visiteurs venant de l'étranger. Or, M. Trump n'est pas connu comme étant quelqu'un qui accueille avec chaleur les étrangers sur le sol américain. Donc je trouve que l'approche française est très, très cohérente. Unicité entre le président, le maire de Paris, l'industrie et les athlètes, et on ne voit pas vraiment cette même unicité d'approche de la part des Américains.
Michel Duruy, auteur de Tourisme, la France numéro un mondial.
Alors effectivement, les JO, c'est une magnifique aventure et surtout, c'est en termes de tourisme, un magnifique mouvement pour faire la promotion de la destination France. C'est 3,5 milliards de téléspectateurs pendant la période des JO. On imagine cette vitrine au niveau mondial pour faire la promotion, non seulement de notre destination Paris pour les JO, mais en même temps de l'ensemble du territoire. Et c'est accueillir des populations et des touristes. Donc vous dites le président Trump n'est pas positif sur cette stratégie-là. On va dire que la France en est actuellement positif et actif justement pour développer le tourisme.
Oui, mais attention aussi, parce que moi je me souviens lorsque c'était à Singapour, le CIO avait tranché donc sur la candidature de Paris versus celle de Londres. Je faisais la matinale de BFM Radio à l'époque, et c'est vrai qu'il y a eu un très beau clip, je me souviens, donc on avait présenté, hein, d'ailleurs, expliqué tout ça, puisque le décalage horaire c'était extrêmement facile, qui montrait Paris en effet très touristique, les petits bistrots, Montmartre, la mode, etc. Puis en face, on avait une vision de Londres complètement différente, avec des jeunes, avec des blacks, avec des, enfin, toutes les minorités qu'on peut avoir, avec des sportifs. Et franchement, alors c'était beau, Paris, très fier d'être français, très fier d'être parisien aussi. Mais en même temps, voilà, il y avait la modernité londonienne, britannique, que l'on voit lorsqu'on va à Londres, justement. Allez, Michel Durieux.
On va dire que ça, c'était avant.
C'était avant.
C'était l'autre.
Donc, ne recommençons pas les
je dirais, là, maintenant, l'image et la dynamique que nous avons réussi à créer sur le tourisme, mais aussi sur la visibilité de la France en général, en termes de nouvelles technologies, de nouvelles tendances, et d'un président jeune, je pense
ça que porte, ça aide.
On a une dynamique qui est créée et qui nous permet vraiment de nous différencier des autres candidatures.
Virgile Caillet.
Oui, on parlait tout à l'heure de l'importance d'une candidature portée par les athlètes. On parlait de ce consensus, de cette union derrière la candidature. On a cité effectivement les industriels, enfin l'économie, les sportifs, etc. Mais ce qui est très important aussi aux yeux des membres du CIO, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ce sont eux qui vont voter, les 95. Oui. Ce qui est important, c'est le message qu'on va délivrer. Je pense que ça va vous parler parfaitement. La dernière candidature, donc on parlait de 2012, on a dit que Paris était la plus belle ville du monde. Quand les Anglais disait que les Jeux Olympiques allaient inspirer une génération. Et là, on est sur un nouveau thème, on est sur une candidature globale. Nous, on propose de partager nos rêves. On propose donc Made for Sharing. Donc on est dans cet esprit-là. On va partager notre rêve, on va partager la France avec la Terre entière. Et je pense que là, on est parfaitement dans l'idéal olympique. Au-delà, effectivement, des atouts touristiques que propose la France, on est dans cet idéal olympique. Et je pense que le message porte beaucoup mieux pour les membres du CIO.
Christophe Ripaud, vous êtes le directeur des partenariats de La Poste. Donc La Poste engagée derrière cette candidature, qui fait partie de toutes ces grandes entreprises. Il y en a une quinzaine, hein. Quelle histoire vous avez envie qu'on raconte au travers de ces Jeux Olympiques de Paris ?
Nous, il y a deux points qui nous semblent essentiels. Déjà, La Poste, si on se remet un petit peu dans le passé, on a accompagné beaucoup de grands événements. On a été partenaire de Grenoble, d'Albertville,
donc 68,
de France 98. On a été partenaire très récemment de l'Euro 2016. Donc, si vous voulez, on a toujours soutenu les grands événements français. L'élan français, on l'a mis sur tous nos véhicules. Soutenons l'élan français parce qu'on soutient également Expo France, le projet d'Expo universel.
Ah ben, aussi l'Expo 2025. On verra si on peut faire les deux.
Bon. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type d'événement a la capacité de rassembler positivement toute la France, en fait. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que ce qui est très important, c'est que cette candidature, elle rassemble le monde sportif, mais pas seulement le sport d'élite. Mais elle mobilise tous les sportifs dans les petits clubs, etc. Elle mobilise tous les acteurs de la société. Et ça, pour les grandes entreprises que nous sommes, c'est un feu vert formidable pour une belle édition des JO.
Et pour l'instant, Frédéric Bonin, ce qu'il dit, Christophe Ripaud, oui, c'est vrai, c'est assez populaire. On voit les Parisiens, on voit les Français de façon générale derrière le projet. Je voyais un sondage RTL au Doxa, 73% des Français favorables à la candidature de Paris. Et on se souvient comment, au mois de juin, on a vu des centaines de milliers de Parisiens qui sont venus comme ça.
Un million.
Un million, vous dites, c'est encore plus. oui, en effet, Virgile Caillet. Frédéric Bedin.
Oui, c'est même 85%, je crois, c'est les jeunes qui soutiennent, ce qui est encore plus intéressant, parce qu'évidemment, c'est le sport, c'est ça a l'avantage de donner un élan et de créer un mouvement positif où tout le monde converge. Et
en fait, avec une unité politique aussi. Hein. Alors, là, on voit gauche, droite, extrême gauche, oui, extrême droite. Hein.
C'est-à-dire que ces grands événements, que ce soit les Jeux Olympiques ou l'Expo universelle ou même peut-être la Coupe du Monde de rugby un an avant, peut-être à moindre échelle, mais ce sont des points qui ont pour but de créer un point focal et de faire aller tout le monde dans le même sens. Et de tout le monde dans le même sens de façon positive. Donc évidemment, c'est plus une histoire de partis politiques, de médias, de Français ou d'étrangers. C'est-à-dire qu'on se donne un point tous ensemble suffisamment loin et on fait converger les énergies des entreprises, les énergies de chacun des participants, les énergies des autres pays qui du coup se mettent un petit peu en résonance avec l'énergie de la France si on a la chance d'avoir ça en France. Donc c'est quelque chose de très positif. Et souvent, on pose la question, oui, mais qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? Etc.
On va en parler.
Bon, le coût, on va probablement en parler. Ouais. Mais dans ce que ça rapporte une espèce de vague de dynamisme qui est très difficile à mesurer en argent, mais qui est incroyablement positive sur le long terme. Ça crée un profit immatériel, je dirais, comme cette espèce d'élan de positivité qu'on ressent en France depuis un certain temps. Et ben, ça peut le créer sur de la longueur. Voilà.
Ouais, l'immatériel, c'est un de vos combats, justement, Frédéric Bedin à la tête de Hopscotch. Oui, mais justement, mettons ça en avant.
Créons de la valeur immatérielle pour le pays.
Bien sûr, Michel Durieux.
Quelques grands événements qui ont été cités, Coupe du Monde de rugby, Expo, JO. Il y a aussi la Ryder Cup l'année prochaine, que ça, nous l'avons déjà gagné, mais c'est le Tour de France chaque année. C'est aussi cette capacité de la France à organiser ces grands événements.
Ce que voulait dire Michel Durieux, c'est que Paris, finalement, c'est de quoi elle parle. Roland Garros, le Tour de France, là, non, on est en plein dedans. Le marathon de Paris, tous les championnats et coupes diverses qui sont organisées, Coupe du Monde, il y a un savoir-faire de Paris en la matière.
Et finalement, ces grands événements, ce sont des accélérateurs pour faire du structurant. C'est-à-dire, on met en place des outils de transport, on met en place des outils en termes d'hébergement. C'est-à-dire, on arrive à accélérer des investissements et ce dont la France a besoin pour recevoir aussi ces touristes en dehors de ces événements.
Christophe Ripaud.
Oui, c'est à la fois un accélérateur économique et quelque chose aussi qui crée de la valeur, qui crée de l'empathie entre les gens. Nous sommes sur les valeurs. On est partenaire des arbitres depuis des années, du foot, rugby, du hand et du basket. Et le pas était vite fait sur les valeurs. On est sur l'esprit sportif qui match avec l'esprit olympique. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui rassemble les Français. Et qui peut créer aussi un peu les différences.
Alors en attendant, les infrastructures, c'est très bien ce que nous disait Michel Durieux. L'état des lieux, on nous dit, Virgile Caillet, que 95% des sites sont déjà existants, justement. Seulement que les villages...
Ou sur des structures éphémères.
Comment ?
Ou structures éphémères. Soit existants, soit ce seront des structures éphémères.
Il manque le village olympique, il manque le village des médias, exact. Il manque le centre aquatique. Exact. Et que finalement, tout se trouve dans un rayon de 10 km autour du village olympique, parce que Paris veut jouer justement sur cette carte grand village olympique, gigantesque parc olympique, avec notamment la Tour Eiffel, il y aura le triathlon, le marathon, le Grand Palais, l'escrime, enfin je sais pas, le cyclisme sur route, ce sera sur les Champs-Élysées. Évidemment, toute la ville va se transformer en village olympique, enfin en parc olympique.
Là, c'était un point aussi important pour séduire les membres du CIO, c'était de respecter l'agenda 2020 qui a été défini par le comité olympique. Là aussi, le constat, c'était de dire que les villes n'étaient pas en capacité d'organiser des jeux qui étaient trop coûteux, ça devenait complètement pharaonique et plus raisonnable. Donc le CIO a demandé aux candidatures d'être je vais réemployer ce terme, d'être plus raisonnable, plus compact, et c'est le cas de la candidature de Paris, hein, autour de trois pôles. Il y a le triangle dans l'ouest, il y a le nord, et puis effectivement la Seine, follow the Seine. Donc c'est un des slogans, et ça c'est véritablement une force, parce que derrière on peut tout décliner. On peut décliner la convivialité, la proximité avec les athlètes, on peut décliner aussi le développement durable et le respect de l'environnement au travers de déplacements à vélo qui vont se faire pour l'ensemble des athlètes. Donc là-dessus, c'est aussi un contre-pied vis-à-vis de Los Angeles. C'est extrêmement bien joué pour la candidature qui répond au cahier des charges du mouvement olympique.
Parce que Christophe Armesnou, je ne vais pas vous réexpliquer, puisque vous connaissez par cœur, vous êtes californien, à quoi ressemble Los Angeles. On a vaguement 70 km entre le nord et le sud de cette grande ville, cette grande métropole, et une quarantaine de kilomètres entre l'océan Pacifique et la montagne. Et les sites olympiques de Los Angeles, ils seront répartis dans un peu quatre coins de la ville. Hein.
Certes, mais ça n'a pas été un problème en 84. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Los Angeles a monté quand même des Jeux olympiques en 84.
Très bon souvenir. Moi, je
donc, il y a 40 ans,
c'était beau.
Qui était aussi un modèle économique qui, jusque-là, n'a pas été vu. C'est-à-dire, ils étaient bénéficiaires à la fin des Jeux.
C'est rare. C'est la première fois que nous divergeons.
Donc, on a un savoir-faire français qu'on est en train de voir avec le président, le maire, les athlètes, etc. Il y a un savoir-faire américain qui est tout autre, qui est une logique privée. C'est le privé qui va financer les Jeux olympiques à Los Angeles pour que le contribuable américain paie le moins possible. C'est un autre modèle. C'est parfaitement recevable, mais c'est autre chose.
Los Angeles, 1932-1984. Nous, 1924. Peut-être 2024, on verra. Virginie.
Mais non, pour répondre sur Los Angeles, il y a la problématique effectivement des sites qui sont très éloignés les uns des autres et une problématique connexe qui sont les transports.
Ouais. Mm-hmm.
Là, il y a un vrai déficit et on sort quand même d'une expérience un peu douloureuse à Rio. Où ça a été quand même un capharnaüm pour passer d'un site à l'autre avec des durées de trajet qui étaient infernales.
Ouais. Alors oui, je veux bien qu'on dise que c'est le capharnaüm sur les transports de Los Angeles. Très très bien. On va juste aussi un peu parler de ce qui se passe chez nous parce qu'on a des atouts. On les a mis en avant, les atouts donc de cette candidature olympique. En effet, le fait que tout est compacté finalement dans Paris-Ville, quelque part. Le fait qu'en effet, il y ait une unité politique, il y a une acclamation populaire, le fait qu'il y a un savoir-faire, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Quand même, les handicaps, la mauvaise image. J'ai consacré une émission des décodeurs de l'écho la semaine dernière, à l'occasion de la réouverture du Crillon. C'est bien, on a des belles choses, mais on a des choses qui vont moins bien. Je m'adresse à vous, Michel Durieux, auteur de Tourisme, la France numéro un mondial, et vous êtes le directeur du tourisme aussi au sein du gouvernement. La mauvaise image que peut avoir encore Paris. L'insécurité, les agressions. On a vu encore une vingtaine de touristes dévalisés ce week-end par des malfaiteurs cagoulés devant leur hôtel tout près de Charles de Gaulle. Des vols avec des bandes venues d'Europe de l'Est, etc. Je peux vous faire un dessin. La propreté, les rats, les poubelles. Des gares qui sont pas formidables aussi. Gare du Nord versus Saint-Pancras, le wifi qui manque. Bon.
Alors vous me donnez plein d'exemples.
Bah oui.
Finalement, il y a d'abord une étude qui est réalisée tous les deux ans. Sur la satisfaction des touristes étrangers qui viennent en France et on le compare à toutes les destinations européennes. La France est au-dessus de la moyenne européenne. Donc déjà, c'est un premier point. On critique beaucoup, surtout en France. La secrétaire d'État au tourisme espagnole, dans un aparté, me disait « Les meilleurs défenseurs, finalement, du tourisme dans les autres pays, c'est la France. » Parce qu'on vous critiquez tout le temps votre destination. Quand on pose la question aux touristes étrangers, quelle est la destination,
c'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit ?
Il y a de tout. Parce que les gares, si on reprend les gares, la gare du Nord, il y a un projet de 600 millions d'euros pour la reconstruire complètement. C'est en cours.
Bon.
C'est aussi la gare.
C'est bien, je note.
C'est aussi la gare qui a le plus de fréquentation au niveau européen.
Bon. Bah,
c'est-à-dire il fallait réussir à la
transformer
scolarité. On a aussi le projet de Charles de Gaulle Express, l'aéroport de Charles de Gaulle avec la gare de l'Est. C'est financé, c'est confirmé, on l'aura en 2023, ça fait partie 23. Du dossier de candidature.
Simplement, je ne suis pas le seul à râler, M. Janaillac, qui est le président d'Air France KLM, qui a écrit au ministre de l'Intérieur en demandant que des mesures rapides soient prises pour réduire les perturbations à la fois à Roissy et à Orly du fait du contrôle des frontières. Plus d'une heure et demie, deux heures.
Et des choses sont en train d'être faites, en particulier le système paraf qui est en train d'être installé.
Qui finance ADP.
Qui permet d'avoir des contrôles plus rapides. On a un système paraf avec reconnaissance faciale qui est en train d'être testé. Donc on est en train d'évoluer sur ce point-là. On a aussi une situation de sécurité sur lesquelles on doit faire des contrôles. Certains pays, peut-être, n'ont pas fait tous les contrôles qu'il fallait faire. Et quand ils les appliquent, ils commencent à avoir des files d'attente.
Vous promettez que d'ici 2024-2028, tout ça sera fini. Hein.
J'espère, bien avant.
Bon, très bien. Frédéric Bedin.
Ça renvoie un des sujets, c'est la sécurité. Les problèmes de sécurité sont les mêmes partout dans le monde. Et il est très probable que là encore, ces grands événements fassent progresser tout le monde.
Bien.
Et si on a la chance d'avoir les Jeux, on peut espérer qu'on ait la reconnaissance faciale dans nos aéroports. Entre nous, il n'y a pas besoin de les tester. Ça marche dans tous les autres aéroports européens et que chez nous qu'on l'a pas. Hein. Mais bon, il suffit de demander aux Hollandais. C'est pourquoi chez eux ça marche.
chier.
Ouais, bon. mais globalement, les services de sécurité israéliens, etc., travaillent avec les Français pour essayer d'améliorer tout ça. Et il est probable que tout ça sera beaucoup plus fluide et grâce au jeu. Donc tous les Français vont profiter des Jeux Olympiques, comme on aura eu le Charles de Gaulle Express, ça c'est formidable. Donc ces aéroports qui seront beaucoup plus fluides.
En tout cas, tout ce qui est nouvelle infrastructure.
Ce sera un bénéfice qui sera très difficile à compter financièrement, mais qui sera sur le long terme formidable.
Ce qu'il faut juste dire, et puis on va se retrouver dans un instant pour parler argent aussi, hein, Virgile Caillat, c'est que quand on parle des infrastructures, c'est vrai que l'un des atouts de Paris, c'est que Paris avait anticipé, notamment grâce au Grand Paris, tout ce qui est nouveau métro, nouveau RER, etc., et que finalement les Jeux Olympiques vont en profiter aussi à leur façon.
Exactement. Alors les Jeux Olympiques, c'est même...
Comme Albertville avait fait profiter à la France,
c'est même plutôt la population française qui va profiter de ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir cet effet d'accélération et de focus fédérateur des Jeux Olympiques. Donc ça va nous conduire vers 2024 et il faudra que les travaux soient achevés à cette période-là.
Bon, allez, on continue dans un instant. Est-ce que Paris est enfin prête pour accueillir les Jeux Olympiques? On nous parle d'un budget d'environ 6 milliards d'euros. Ça semble pas énorme, mais bon, c'est sur le papier. Est-ce qu'on va pas, comme ça, alourdir la note, comme souvent d'ailleurs dans les Jeux Olympiques? À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et c'est parti donc pour la candidature de Paris, hein, aux Jeux Olympiques 2024, 2028. Bon, on en saura plus demain. Emmanuel Macron, il se trouve à Lausanne. Il va défendre la candidature, évidemment, de la capitale. Bon, il sera pas seul, hein. Il y aura la maire de Paris. Et puis surtout, beaucoup de sportifs qui vont l'accompagner. C'est ça aussi, bien, le fait marquant, hein, de la candidature de Paris pour 2024 versus celle de 2012. C'est que les sportifs sont beaucoup plus associés en plus grand nombre, justement, dans cette candidature. Oui. Alors, est-ce que, avant qu'on parle d'argent, justement, avant qu'on parle de budget, on le disait tout à l'heure, c'est une formidable carte, hein, pour attirer donc sur notre territoire. Michel Durieux, vous êtes avec nous, vous êtes auteur du livre « Tourisme, la France numéro un mondial ». Vous êtes aussi le directeur du tourisme au sein du gouvernement, au sein du ministre Jean-Yves Le Drian, du cabinet auprès de Jean-Yves Le Drian, donc le ministère des Affaires étrangères, qui annonçait cet après-midi, votre ministre, et donc vous-même, donc, eh bien, ce chiffre de 89 millions de visiteurs en France en 2017. Ça veut dire quoi? Les touristes reviennent après les attentats, terribles attentats de 2015-2016. On a fêté, enfin, se souvenir du premier anniversaire de la tuerie de Nice, donc d'ici vendredi. D'où ils viennent, ces touristes, hein?
Alors d'abord, rappelez, 85 millions en 2015, 83 millions en 2016. Donc finalement, une diminution peu significative du nombre de touristes. Et ensuite, 89 millions, l'estimation pour 2017, donc dans les mois à venir. Ils reviennent de pays lointains. Les Japonais reviennent, les Russes reviennent. Donc là, on a des progressions de plus de 30 à 40% sur ces marchés. Les Indiens, qui avaient déjà commencé à venir de façon massive l'année dernière, continuent à augmenter de plus de 20%. Mais ce sont aussi les touristes européens qui reviennent. Et ça, c'est encore plus important, puisqu'il ne faut pas l'oublier, nos plus gros marchés,
finalement, bien sûr, c'est les voisins, bien sûr.
Les Anglais et les Allemands. Voilà. Et là, les Allemands sont en progression de l'ordre de 4%, ce qui est une excellente nouvelle.
Oui, mais quand on parle de 89 millions, il faut toujours être précis, hein. On parlait de Jeux Olympiques dans un instant, mais ça peut être des passages également, hein. C'est pas forcément des gens qui s'arrêtent chez nous, qui consomment, qui vont à l'hôtel et qui vont au resto, hein.
Alors soyons très précis. Ouais. Ce sont des touristes qui ont au moins passé une nuit.
Une nuit.
Donc là, ils ne font pas que passer, ils s'arrêtent au moins une nuit. Et vous faites certainement référence à ces touristes du nord de l'Europe, voilà, qui vont vers l'Europe,
voilà,
du sud.
Voilà.
C'est à peu près 6 à 7 millions. On est quand même la première destination, même s'il n'y avait pas ces touristes qui traversent. Mais ce sont de très bons touristes. Et quand ils s'arrêtent, ils dépensent. Et donc là, c'est un objectif qui est important, qui a été rappelé par Jean-Yves Le Drian cet après-midi. 100 millions de touristes en 2020, 50 milliards de revenus, alors qu'on est à 40 milliards de revenus en 2020. Et 300 000 emplois en plus. C'est tous ces objectifs qui sont fixés et qui sont finalement atteignables, puisque la croissance est 89 millions de touristes cette année. On revient à des chiffres qui étaient déjà les estimations prévues quand on avait fixé l'objectif de 100 millions.
La contribution du tourisme à l'économie, hein, 7% du PIB, 5% des emplois. Voilà, à rappeler régulièrement, ne négligeons pas cette pépite. Quel tourisme, justement. Alors justement, les Jeux Olympiques, si on les a en 2024, imaginons, Virgile Cayet nous disait tout à l'heure, une sorte de deal qui serait fait peut-être au sein du CIO. Attention, on va pas griller la priorité du CIO, mais Paris en 2024, Los Angeles en 2028. Conséquences directes, évidemment, pour le secteur touristique. Hein. C'est bon, les Jeux Olympiques. Voilà, 100 millions de visiteurs en 2020, nous disait Michel Durieux. Grâce au JO, on arrive à combien, donc, en 2024? Si c'est 2024.
Je ne sais pas quels sont les objectifs du gouvernement mais il y a un impact sur l'image de la France, un impact durable. Je voudrais citer également le fait qu'Emmanuel Macron, à l'époque où il était à Bercy, avait lancé, ça date d'un an et demi, une filière sport, un contrat de filière pour tous les acteurs de l'industrie et de l'économie du sport, parce qu'en France, on a, on le disait, de vraies pépites, des expertises, le groupe ASO, le Tour de France, Roland-Garros, etc. On a un savoir-faire, mais qu'on n'arrive pas à exporter. Tous les grands événements internationaux, ce qu'on appelle les JESI, finalement, ce sont toutes les équipes qui ont organisé Londres qui récupèrent les contrats. Et donc là, il y a un véritable enjeu qui est un enjeu qui va bien au-delà de 2024. C'est toute une industrie, un secteur économique qui est un véritable levier de croissance, le sport très dynamique, beaucoup d'innovation, qui mériterait d'être porté par les Jeux de 2024.
Frédéric Bedin à la tête de Hopscotch.
Oui, au-delà de ce que rapportent les Jeux Olympiques en soi, il faut penser à l'effet multiplicateur qui est supérieur probablement quand c'est en France que quand c'est ailleurs. Ah. C'est-à-dire que on l'avait vu ça pour la Coupe du Monde 98, c'est-à-dire que quand des gens viennent du bout du monde pour un événement sportif dans un pays à faible potentiel touristique, ils viennent uniquement pour l'événement sportif, ils font l'aller-retour et ils repartent. Si on vient en France et que c'est peut-être le voyage d'une vie ou d'un voyage qu'on fait pas souvent, on a tendance à prendre quelques jours de plus ou bien entre deux épreuves à voyager. Et moi je me souviens qu'on avait fait beaucoup d'affaires comme ça en 98 avec des entreprises qui invitaient leurs forces de vente, leurs meilleurs clients, mais qui les emmenaient voir les Alpes, la neige pour des gens qui l'avaient jamais vu, et puis les châteaux de la Loire. Etc. Donc il y a cet effet multiplicateur sur le tourisme qui est vraiment pas à négliger, et puis l'effet multiplicateur sur le reste du business. C'est-à-dire que pour toutes les entreprises de la filière du sport, c'est évidemment très bien, mais pour les entreprises, toutes les entreprises innovantes françaises vont avoir ça comme vitrine, vont avoir elles aussi un prétexte pour prendre la parole vis-à-vis de clients, de partenaires commerciaux, en disant ben ça va être les Jeux en France, venez et on parlera affaires et puis on ira voir un match, les courses, etc. Et ça, ce sont des relations publiques, mine de rien. Et là, le Comité olympique français donne l'opportunité à toutes les entreprises françaises de faire des relations publiques. Je suppose qu'une entreprise comme
La Poste... Christophe Ripaud va nous en parler dans un instant,
intérêt.
De La Poste.
Ouais. C'est un énorme accélérateur de business.
Alors, tu as Christophe Ripaud, juste après Virgile Cayet qui revient justement. La Poste, qui fait partie donc de cette quinzaine de partenaires de Paris 2024. Je ne vais pas tous les citer, il y a la SNCF, la Française des Jeux, LVMH, Suez, Orange, etc., la CDC. Une vraie vitrine pour vous donc l'entreprise La Poste. Comment est-ce que vous allez en jouer donc de cette candidature JO 2024
hein? Mais écoutez, on a déjà commencé à en jouer. On a fait déjà quelque chose de basique, mais qui se fait pour la première fois pour une candidature. On a sorti un timbre qui est sorti à 1 million d'exemplaires. On a participé à beaucoup d'événements autour de Paris 2024. On a mis des stickers soutenant l'élan français sur tous nos véhicules en Île-de-France, avec le projet d'Expo Universel, parce que je pense que quand on parlait de tourisme tout à l'heure, ça rajoute environ 70 millions de touristes en 2025, donc 2024-2025, avec le Grand Paris, avec toute cette innovation que nous allons tous déployer, parce que toutes les entreprises sont à fond sur l'innovation, sur comment on peut accueillir au mieux les visiteurs, l'expérience visiteur avec des start-up. Nous avons proposé d'ailleurs au salon Vivatech, on a mis en avant quelques start-up qui pouvaient favoriser l'expérience visiteur. Donc je pense que c'est un melting pot formidable pour toutes les entreprises.
Virgile Cayet.
Oui, non, je voulais faire deux remarques à ce que disait Frédéric à l'instant. C'est une candidature, certes, c'est Paris 2024, mais la vérité, c'est que c'est la candidature de la France. Dans le projet tel qu'il est écrit, tous les territoires sont concernés et tous les territoires vont pouvoir profiter de cet événement. Il faut savoir qu'il y a des délégations qui viennent de très loin, qui vont venir 3 semaines avant, 1 mois avant.
Bien sûr.
Et là, elles vont chercher des camps de base, elles vont rester un certain temps. Et il y a vraiment des opportunités. Et la deuxième chose, c'est que 2024, ça commence au moins en 2022 avec tous les test events. C'est-à-dire que toutes les compétitions devront avoir lieu sur le territoire français. Là aussi, c'est un excellent élan et un effet multiplicateur.
Et derrière Los Angeles, est-ce qu'il y a tous les États-Unis qui sont mobilisés, Christopher Mesnou?
Pas autant qu'en France. C'est clair qu'on est maintenant un pays politiquement très, très divisé. Donc cette unité qu'on voit côté français est totalement absente côté américain. Je pense qu'aux États-Unis, d'après tout ce que je lis dans la presse américaine, 2024 est plus ou moins déjà acquis à un pays qui n'est pas les États-Unis. On se console en disant on aura 2028. Peut-être Los Angeles pourra faire un progrès en termes d'infrastructure en ayant 4 années de plus, notamment en matière de transport, parce que vous avez évoqué les grandes distances et les problèmes de transport. Donc, ce n'est pas forcément mauvais si Los Angeles, si jamais ça se joue comme ça, que Los Angeles aurait 4 ans de plus, en plus l'administration Trump. Je ne sais pas, j'ignore sa durée, mais en tout cas, elle sera là pas en 2028.
Ah bah de toute façon, ça c'est sûr, qu'il soit réélu ou
voilà,
pas. Donc,
voilà, élu, pas élu, whatever.
2020 ou pas, de toute façon, il sera plus là.
On a réglé le problème politique intérieur américain, parce que c'est aussi, ça fait partie de ce dossier.
Bon, alors le budget, justement, parlons-en, parce que c'est vrai que le CIO a voulu des jeux qui ne soient pas dispendus, un petit peu pour casser hein, certains mauvais exemples donnés. Les Jeux Olympiques d'été d'Athènes, 10 milliards d'euros. Alors, on explique que les JO de 2004 ont contribué quand même à creuser un petit peu plus, eh bien, la dette et le déficit grec. Pékin, alors ça c'était les premiers Jeux chinois, donc ils ont voulu en faire, en mettre plein les yeux de la planète entière, 26 milliards d'euros. Londres, en 2012, 12 milliards d'euros. Puis dans un autre genre, Sochi, les Jeux Olympiques russes, hein, cette fois, donc les Jeux Olympiques d'hiver, 2014, 36 milliards d'euros. Voilà, record battu. Alors, Paris nous annonce donc un budget de 6,6 milliards. 3 milliards pour les nouvelles infrastructures, dont certaines seront payées en partie donc par les impôts et par des partenaires privés, et 3,6 milliards pour l'organisation, proprement dit, des Jeux Olympiques, hein, c'est-à-dire tout ce qui est organisation, volontaire, etc., etc., enfin, toute l'infrastructure. Sur le papier, ça paraît raisonnable, Virgile Caillet. Ce qu'on a fait, un certain nombre de projets avaient été programmés avant. Je parlais du réseau express du Grand Paris, du réseau du métro. Bon, très bien. Les organisateurs nous disent on est loin du dérapage financier. Mais est-ce qu'on doit les croire? Parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'on nous dit. Et puis, on voit la facture qui grossit, qui grossit, qui grossit. Alors, pourquoi Paris serait-elle vraiment sobre? Et pourquoi devrait-on croire Paris cette fois-ci?
Alors, moi, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie sur ce sujet-là. Il y a une vraie confusion entre le coût des Jeux et les investissements qui sont faits autour des Jeux. Et notamment, on parle d'infrastructures, de logements, etc. Les villages qui sont transformés en logements sociaux
et
après les Jeux.
Quartier, notamment le village.
Et donc, c'est pour ça que c'est important d'expliquer que depuis une dizaine d'éditions, mais c'était le cas à Athènes, et c'était le cas à Rio, c'était le cas à Londres, etc., les Jeux financent les Jeux. La compétition en elle-même s'autofinance. Il faut savoir que le CIO abonde à hauteur d'1,5 milliard. Donc, si vous voulez, il y a déjà au départ un bon budget sur les 3,5 milliards qui concernent les Jeux. Hein. Vous disiez 3,6 milliards, mais on est dans ces eaux-là. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a le marketing, la billetterie. Donc, finalement, ça, cette partie-là, les Jeux financent les Jeux. Derrière, là où il y a eu des vrais dérapages, et vous avez cité Athènes, qui est pour moi le meilleur ou le pire des exemples
ouais.
C'est ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est-à-dire ouais. des pays ou des villes qui sont obligés de tout construire, qui n'ont rien. Là, dans le cas de Paris, c'est 95% d'infrastructures existantes ou éphémères qui seront démontées après les Jeux. Donc là, on a des coûts vraiment maîtrisés. Qu'est-ce qu'on va construire en plus? Le village des médias, le village olympique, qui de toute façon seront transformés en logements sociaux,
dont on a besoin. En éco-quartier, 4500 logements.
Exactement, dont on a besoin dans le 9-3. Et ensuite, effectivement, la piscine olympique qui sera démontée. C'est-à-dire qu'on va passer de 15 000 places à 2500 places.
Mais il restera un centre aquatique.
Et il restera un centre aquatique. Voilà, exactement. Donc, pour ma part, je suis intimement persuadé qu'on va maîtriser ce budget. Il n'y a pas de raison que ça dérape. Et on est plutôt sur des logiques d'investissement plutôt que de coûts identifiés sur les jeux.
Alors, face à, je vous donne la parole, Michel Durieux, simplement, parce qu'on parle de chiffres, on parle de budget, parlons juste aussi des recettes aussi importantes. Le CIO donne au COJO, c'est-à-dire donc le comité d'organisation français, 1,3 milliard, c'est une subvention. La billetterie, elle va rapporter plus d'1 milliard d'euros. Les sponsors du COJO, 1 milliard. Et puis les produits dérivés, une centaine de millions d'euros. Michel Durieux, auteur de Tourisme à la France numéro 1 mondiale.
On considère aussi que les JO sont des retombées touristiques sur les périodes avant, pendant et après, de l'ordre de 3,5 milliards. Donc c'est aussi, ce sont des chiffres qui sont importants. Tout à l'heure, je disais, le tourisme étranger en France, 40 milliards actuellement. Donc on considère que les retombées, c'est à peu près 30% qui vont vers le tourisme. Ce qui est intéressant sur ces investissements, et ce que je disais tout à l'heure, quand on arrive à avoir un objectif de 100 millions de touristes en 2020, ensuite on va devoir continuer à croître. Finalement, les JO, ça nous crée aussi des infrastructures, ça consolide des infrastructures existantes pour pouvoir recevoir ces touristes étrangers dans le futur qui vont continuer à croître. Un chiffre, 1,2 milliard de touristes en 2014, 1,8 milliard de touristes dans le monde en 2030. On va pratiquement doubler.
50%,
ça veut dire que globalement, on ne va pas s'arrêter à 2020. Donc il va falloir continuer à avoir ces capacités. Et tous ces investissements, si on les fait, on va pouvoir en profiter aussi pour certains avant les Jeux Olympiques. Donc certains hôtels vont être accélérés pour les JO, mais on va pouvoir les utiliser aussi pour les touristes dans les années précédentes.
Ouais, ils ne seront pas finis à la dernière minute, comme à Athènes, par exemple. Oui. Oh là là, le soupir de Virgile Caillé. Un mot, Frédéric Godin, bon. Qu'on parle d'un mot aussi de l'Expo 2025.
Faisons le pont, justement. Ouais. En fait, il faut savoir que tous ces métiers de l'entertainment, des loisirs et du tourisme sont des marchés d'offres. Donc, si vous êtes capable d'offrir quelque chose, vous attirez des clients. Et effectivement, comme c'est un marché avec un nombre de clients potentiels qui croient, si on augmente l'offre, c'est mieux. Et si on a les JO et qu'on a aussi le rugby avant et l'Expo
2023, bien sûr,
On va avoir des tas d'investisseurs. L'Expo universelle 2025 après, on va avoir tout un tas d'investisseurs qui vont avoir tout intérêt à construire des hôtels et à investir plus. Et du coup, on va faire grossir la boule de neige beaucoup plus vite, bien au-delà de ces trois événements.
Juste pour terminer, 2024, 2025, l'Expo universelle, les organisations internationales vont nous donner les deux à la France. Ils vont nous faire ce cadeau. C'est possible ou pas, Michel Durieux?
Ce sont des choix qui sont complètement séparés. Oui. Ce n'est pas les mêmes organes qui décident.
J'entends, mais bon,
ils sont pas les mêmes. Il y a aussi le rugby en 2023, donc 2023, 2024, 2025.
L'Irlande qui sera notre challenger.
Finalement, on regarde aussi souvent si les investissements vont être rentables. Dans ce cas-là,
financièrement, est-ce qu'on peut tout supporter, 24 et 25?
Financièrement, ce sont des investissements qui, justement, vont être de plus en plus rentables si on a plus d'événements. Un point très important aussi,
c'est
tous ces événements, on a aussi la connectivité aérienne et la mobilité sur le territoire qui sont mis en place, qui sont des atouts pour notre territoire. Donc là, je pense que c'est des enjeux qu'il faut qu'on arrive à apporter.
Bon, très bien. Voilà, Paris est prête pour accueillir les JO. Oui, évidemment, vous devez répondre tous oui maintenant. Donc, verdict le 13 septembre à Lima, en attendant Emmanuel Macron qui va défendre la candidature de Paris ce mardi matin, donc à Lausanne devant le CIO. Merci Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle, le syndicat des entreprises du sport. Frédéric Bedin à la tête de son entreprise Hopscotch, spécialisée dans l'événementiel, justement dans les relations publiques. Michel Durieux, qui est le directeur du tourisme au ministère des Affaires étrangères et qui signe Tourisme, la France numéro 1 mondial, 89 millions de visiteurs en 2017. Christophe Ripaud, directeur des partenariats dans le groupe La Poste, et puis l'avocat californien Christopher Mesnou, allez, franco-américain, puisqu'il travaille beaucoup à Paris, il est au barreau de Paris et New York. Merci à tous les décodeurs de l'écho qui reviennent très très vite, bien sûr, avant 2024.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.